Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous préparé avec Jeanne Aléos, Corinne Amart, Romain de Bec-de-Lièvre, Lise-Marie Barré qui le réalise, et avec ce soir au son, Élise Leu.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Ce soir, avec Alain Cavalier. Rose s'appelle Rose. Mais son mari Léon l'appelle Rosette parce qu'il faut bien que ça fasse une différence avec les autres. Léon, qui s'appelle aussi Lévonne, enfin Lévonne et Léon. 100% arménien, 100% français, c'est donc un humain 200% que vous filmez Alain Cavalier dans ce portrait XL. Léon Lévonne a été cordonnier pendant 46 ans, il doit vendre sa boutique avant qu'elle ne vale plus un clou. Léon dit qu'il est un bouif. C'est de l'argot de cordonnier, il dit que ça va finir, il dit qu'il est temps que ça finisse, mais quand il se voit obligé de refuser la dernière paire de patins, il a l'œil surpris, car la fin, quoi qu'on en dise, ça surprend. Pendant le film, votre mère meurt, pendant le film, Léon raconte la mort de son père, et pendant le film, il s'endort, lui, devant vous, dans un coin de sa boutique, au plus grand abandon. Bonsoir Alain Cavalier, et merci d'être là.
Ben merci de votre précision, parce que tout ce que vous dites sur le bouif est parfaitement exact.
Le bouif, c'est Léon.
Bouif, c'est Léon.
On y reviendra.
C'est le sixième portrait de femme. On est au milieu, puisqu'il en reste six à faire. C'est le moment le plus délicat, parce qu'on a un peu plus le trac, la répétition. On veut éviter d'avoir la même façon de s'approcher de chacune, trouver quelque chose de différent et en même temps rester soi-même, ce qui fait que le matin, quand on arrive au tournage, l'angoisse est grandie. Ces portraits doivent rester des portraits et il ne s'agit pas d'être pris la main dans le sac de l'autoportrait par personne interposée. Il y a la responsabilité vis-à-vis des femmes qui acceptent d'être filmées aussi, quand elles verront le regard que j'ai posé sur elles.
Et votre voix reste en suspens. On va, d'une certaine manière, Alain Cavalier, poursuivre ce que vous dites dans ce portrait. C'est le portrait de la Dame Lavabo. C'était il y a déjà quelques années.
30 ans, je crois.
30 ans, c'est possible, 1986. Ouais, ouais, ouais. Et c'est une chose que vous dites assez rapidement dans le début de ce film. Je ne veux pas être pris la main dans le sac d'un autoportrait. J'ai une responsabilité. Je filme des femmes au travail. Et c'est ça que je regarde. Alors j'évoquais, moi... un portrait que vous avez réalisé beaucoup plus récemment. Qu'est-ce que c'est que de reprendre ce geste-là du portrait ?
Écoutez, moi j'ai travaillé beaucoup avec les acteurs, c'est-à-dire j'avais des émotions dans la vie, et puis qui m'intéressaient, et je les reproduisais au cinéma avec des acteurs. J'écrivais une petite histoire, et petit à petit, j'ai eu l'impression que je m'éloignais de ma vraie curiosité et du vrai plaisir que j'avais à rencontrer des gens qui me bouleversaient un petit peu ou qui m'amusaient. Et petit à petit, je suis allé directement les filmer au lieu de reconstituer ce qu'ils m'avaient donné avec d'autres. Mais quand je vais les filmer, je suis responsable quand même de l'authenticité de ce qu'ils sont et de mon regard sur eux. Et je suis très très... Mais en fait, c'est une histoire de... C'est une histoire, les portraits... C'est l'histoire de notre rapport à tous les deux. Voilà. Le cordonnier qui est à 25 mètres de chez moi, que j'allais filmer tous les jours, c'est mes rapports avec lui. Et c'est comme ça que c'est un très bon portrait de lui. Ça ne peut pas être abstraitement, à la troisième personne, il se leva le matin très content de couper le cuir. Non, j'y vais tous les jours et on se parle et je lui demande des précisions. J'introduis ma main dans le champ, mais je n'empiète absolument pas sur lui. Il est content qu'on fait un peu amitié. On commence à se... Vous voyez, au début du film. Et puis à la fin, on se tutoie, chacun porte sa nourriture, son petit que chacune de nos femmes a fabriqué, et on est sur un chantier, hein, on bosse quoi.
Vous avez l'impression de poursuivre un chantier, puisque on entendait cette Dame Lavabo, c'était il y a 30 ans. Est-ce que c'est toujours le même chantier qui est à l'œuvre, ou est-ce que avec ces portraits qui sont plus longs, c'est pour ça que vous les appelez les portraits XL, c'est quelque chose qui change ou qui se poursuit?
Là, c'est une expérience limite parce que les premiers portraits de femmes, j'ai fait 24 portraits de femmes et vous connaissez la télévision, c'est soit 13 minutes, soit 26 minutes, soit 52 minutes, c'est vraiment mathématique. Et il m'avait donné le choix et moi j'avais choisi 13 minutes parce que j'étais sûr, c'était mon obsession, de ne pas être coupé par un message publicitaire. Alors j'ai fait des films de 13 minutes. Mais comme c'est assez 13 minutes, il faut les faire rapidement. J'ai fait ça en une journée pour que les dames n'aient pas de repentir et le lendemain ne me disent pas le contraire de ce qu'elles avaient dit la veille, parce que pour équilibrer un petit peu. Donc c'était un travail de assez. Alors je les voyais évidemment 5-6 fois avant, je venais, on avait quand même, on se connaissait, mais c'était assez rude quoi, et c'était ça qui donnait au portrait quelque chose de très très vif. Et puis là, je suis entré dans autre chose, c'est des vies que je raconte, en fait. Par exemple, je connais une femme depuis 40 ans, et tous les ans, elle va à la boule, et elle passe pour aller à la boule dans la maison de son enfance, où rien n'a bougé, ses parents sont morts, tout est en place, et à chaque fois, elle s'arrête deux ou trois heures, et elle ouvre toutes les armoires, elle respire tout, elle était amoureuse de ses parents. Et là, et puis petit à petit, comme la maison avait 4 étages, il a fallu vendre pour, alors on a vendu le rez-de-chaussée, alors le rez-de-chaussée on l'a mis au premier, puis après au deuxième, puis après au troisième, puis tout s'est retrouvé dans le grenier à la fin. Et mon portrait était terminé. Mais il a duré 15 ans. Et pendant 15 ans, tous les 1er août, je partais avec eux de la porte de Saint-Cloud, dans leur voiture. Et je filmais. Et je filmais pas pour faire un film. Je filmais parce que ça m'intéressait.
Et alors quoi, c'est votre façon de vous intéresser encore plus aux gens, aux choses ou à la vie que de prendre votre caméra pour la regarder, cette vie-là ?
C'est-à-dire que j'ai l'impression que, en la filmant, ce que je filme prend une sorte d'importance. C'est encore mieux que si je le regardais seulement. Et puis ensuite, je me dis peut-être qu'un jour, je pourrais rassembler ces petits morceaux, mais j'en ai tellement. J'en ai tellement depuis 25 ans que je pourrais faire 40 portraits. Mais j'ai choisi celui-là parce que j'ai eu un trou. Je devais faire un film avec une femme écrivain qui s'appelle Emmanuel Bernheim, qui avait écrit un livre, Tout s'est bien passé, où son père lui avait demandé, ayant eu un AVC, de l'aider à partir. Et elle l'avait fait, elle avait écrit un livre magnifique. Et j'avais une amitié avec elle depuis 30 ans et je me suis dit, je vais, finalement, elle va être elle-même et moi je vais faire le père hémiplégique étendu comme ça et lui demandant de... Ça m'intéressait parce que ça me faisait une petite préface à ce qui m'attend bientôt. Et puis elle a eu un cancer et elle est morte. Alors j'ai eu tout d'un coup une espèce de vide et j'ai... Mon journal, dont fait partie ces films, m'a aidé à construire autre chose, à faire d'autres films que celui-là.
Et quel est leur rapport ? C'est assez intéressant, le film qu'on fait à la place d'un autre. C'est pas la première fois que ça vous arrive ?
Non, parce que c'est drôle ce que vous me dites. Parce que en ce moment, elle a eu un cancer du sein d'abord, et puis ensuite ça s'est baladé un petit peu à droite et à gauche, ça a duré 2 ans. Et au début, on pensait que tous les deux qu'elle s'en sortirait. On combattait pour qu'elle s'en sorte, et on remettait le tournage du film. Puis petit à petit, ça s'est resserré. Et puis à la fin, il n'y avait évidemment pas de film possible. Et j'ai tenu mon journal de ça quand même. Et là, je suis en train de. J'en ai pour un an à revoir tout ça. J'ai un film absolument que je n'ai pas fait, qui a été fait par mon émotion, mon attente, mes pleurs et mes joies quand il y avait des rémissions. En fait, je vais faire le portrait d'Emmanuel Bernheim disparu à travers un film qu'on n'a pas fait ensemble. Voilà. Et où sont les scénarios, où sont les acteurs, où sont les producteurs pour avoir de l'argent, etc. Le film, tu le fais, il ne coûte rien. Sauf ce que j'ai vécu, hein. Et je vais ramasser tout ça. Et puis j'espère en faire un film, mais je n'en suis pas sûr. Je crois, oui.
Ça ne coûte pas rien. Ça coûte du travail.
Oui, mais je parle de l'économie. Je parle de la liberté et de la liberté économique qui est la seule et que j'ai maintenant.
Mais c'est intéressant que vous disiez que ça coûte rien alors que vous regardez tellement de personnes qui sont au travail. Que vous attardez tellement sur les heures de travail.
Oui, et pour un bouif, hein, pour un franc
mauvais
est un franc.
Cordonnier.
Hein, un euro est un euro. Hein. Il faut payer un peu à l'avance. Et oui, et surtout que lui a été mis au boulot par son père, après son certificat d'études. Il n'a pas eu le choix.
Il vous arrive de trouver des choses dans les...
Ah oui, je trouve de temps en temps des portefeuilles.
Et puis...
Et des porte-monnaies aussi.
Et vous m'avez dit aussi des seringues, mais ce n'est pas automatiquement des seringues de drogués.
Non.
Ça peut être...
Ça peut être des seringues des gens qui ont
le diamètre. Et puis vous verrez...
Tiens, regardez. Non mais...
C'est extraordinaire ça.
Non mais écoutez...
Ça c'est fou ça. Ouvrez-le, vers nous, s'il y a de l'argent.
Oh ben de l'argent. Il n'y a pas d'argent.
Il y a une photo.
Voyez, c'est courant. Il y a le permis de conduire.
Et la photo, vous pouvez la sortir, la photo, là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez téléphoner.
Je vais téléphoner
aux
gens.
Ne bougez pas, n'avancez pas. Vous allez téléphoner à la personne.
Je téléphone à la personne. Et si des fois, je n'ai pas l'adresse exacte, j'envoie un mot.
Et elle viendra le chercher.
Pour qu'il vienne le chercher. Vous vous rendez compte un peu?
Ça, c'est une surprise, alors.
Alors, ça va commencer, c'est un peu la période.
À cause de Noël?
Ben oui, il y a davantage de monde, alors.
Alors nous sommes dans les sous-sols du Royal Printemps, qui est un grand café qui est en face du magasin du Printemps. Et effectivement, les pickpockets prennent les portefeuilles ou les sacs dans les grands magasins et puis viennent ici s'en débarrasser après avoir pris l'argent. Vous remplacez souvent le papier? Il y a des gens qui emportent le papier?
Très souvent, oui.
Oui.
Ça dépend des jours. Il y a des jours qu'il y a des gens plus malhonnêtes que d'autres.
Ils cassent beaucoup.
Cassez pas trop.
Non. Parce que vous m'avez dit que les cendriers, par exemple, dans les toilettes hommes...
Ah oui, ils cassent, mais ça se casse pas parce que
c'est
quand ça tombe, c'est résistant.
Ouais, Vous le changez tous les combien?
Tous les deux jours.
Et c'est difficile à... Même en tirant très fort, on ne peut pas l'abîmer. Ça tient bien le coup. Hein.
Ça s'abîme pas.
Vous savez, j'ai fait un petit calcul. Vous travaillez à peu près 300 jours par an. Hein.
Oui.
Vous travaillez 10 heures. Et puis, vous êtes là, dans votre sous-marin, là, depuis 27 ans. Vous venez depuis 27 ans.
Oui.
Alors, ça fait 81 000 heures de travail ici.
81 000 heures de travail ici. À la Cavalier, on entend votre vieille voix, votre ancienne voix.
Ouais.
Vous disiez en vous écoutant, j'ai vraiment plus la même voix.
Mmh.
Ce que vous renvoyez à cette femme, entre autres choses, c'est son temps de travail. Et ce n'était pas la seule, ces femmes que vous avez filmées à l'époque. Vous filmiez le temps de travail. C'est aussi le cas pour Léon le cordonnier. Le temps de travail. Qu'est-ce qui vous intéresse tant là-dedans?
Je veux dire, là, j'ai filmé ces femmes pour une raison que je ne connaissais pas quand je le faisais profonde. C'est que ma mère n'a pas travaillé. Et j'avais des copains dont les mères travaillaient et qui m'attiraient beaucoup. C'est drôle, hein? Non pas que je reprochais à ma mère de ne pas travailler, elle s'occupait de ses enfants, elle s'occupait de sa maison, elle s'occupait de son mari.
Elle travaillait, quoi.
Et elle travaillait, son mari gagnait correctement sa vie. C'était son travail. Mais quelqu'un qui part le matin, qui revient, et qui est votre mère, je ne connaissais pas. Et ces femmes avaient des vies avec des maris que j'ai filmés, qui me passionnaient.
Donc en fait, vous filmiez des vies différentes des vôtres. de la vôtre.
Voilà, complètement. C'était ma mère était quelqu'un de très exotique pour moi. Elle avait quelque chose de. C'était d'abord une mère, c'était une femme qui, un être humain qui ne travaillait pas. C'est-à-dire le contraire, en fait, de ce qui m'attendait. Et elle, quelquefois, elle regrettait de ne pas avoir travaillé. Effectivement, elle regrettait de ne pas avoir travaillé. Mais ce qu'elle regrettait le plus, et là, c'est là où elle était le plus drôle, c'est que elle vivait. Et quand elle est chez son père, avant d'être mariée, son père avait été fermier. Et quelquefois, elle allait chercher son père qui faisait la belote au bistrot. Et il y avait des petits sous-lots comme il y a dans la. Et elle disait, oh, quand je pense que ils ont le droit de vote, eux, et pas moi. C'était avant 47, avant que De Gaulle ne donne le vote aux femmes.
Elle regrettait surtout de n'avoir pas voté.
Oui, de ne pas être et de ne pas avoir de carte. Parce que les femmes ne votaient pas à cette époque-là. Moi, je ne peux pas voter, moi.
Disait-elle.
Disait-elle. Et ces crétins-là le peuvent. C'est vrai, c'était scandaleux. Comme beaucoup de choses encore aujourd'hui.
Léon Le Cordonnier, il dit que ce qui l'attriste dans le fait d'avoir le cœur fragile, parce que vous le filmez à ce moment-là, Alain Cavalier, avec un cœur dont le pouls est un peu capricieux, c'est pas tant d'avoir le cœur fragile, c'est d'avoir le cœur fragile alors qu'il voudrait travailler. Comment est-ce que vous décririez l'attachement au travail de cet homme ?
Écoutez, moi je travaille, moi. Hein, vous travaillez, et notre travail, c'est notre vie de tous les jours. C'est pas seulement le travail, c'est les rencontres qu'on fait, c'est l'humeur qu'on a, c'est ça nous permet de gagner notre vie, ça nous permet de réaliser deux ou trois choses. Et puis, on aime les gens qu'on rencontre. Lui, c'est toute sa vie, c'est ses clients, en fait. Il le dit très bien, il est un peu comme un acteur sur scène d'ailleurs, il reçoit, il plaisante, il donne des petits cadeaux aux enfants, il s'amuse. C'est pas seulement un travail, c'est la grande distraction des gens, c'est leur travail, dans leur vie. Hein.
Ça dépend lesquels, et c'est peut-être là que ça m'intéresse. Alors, j'ai vu un homme au travail ce matin quand j'ai vu le film. Dans cette vision du travail que vous décrivez, Alain Cavalier, c'est-à-dire une vision qui agrandit le cœur, le regard, l'esprit, les relations humaines, et dont on sent qu'il remplit cet homme, au bon sens du terme. Vous proposez de regarder ce film dans un monde où ce rapport au travail, il s'amenuise, il se raréfie énormément.
J'en suis parfaitement conscient. J'en suis totalement conscient. Que mes, si j'ose dire, mes modèles, les gens que je peux filmer, les gens que le cinéma peut filmer, qui peuvent animer un peu l'image et le son et aller vers le spectateur. C'est pas en prenant quelqu'un qui va à son bureau, qui s'emmerde et qui est torturé par son chef de service. Je ne peux pas filmer. C'est même infilmable. La personne ne voudra même pas m'accueillir pour me dire ça. Mais je sais que les 9 dixièmes des travaux, les 99% des gens font des travaux qui ne les intéressent pas. Ils attendent la fin de la journée pour essayer de dépenser leur argent à se distraire de cette horreur. Je sais très bien. Alors moi, je suis très mal placé parce que moi, toute ma vie, j'ai fait un travail qui m'a fait du mal aussi, qui m'a labouré, etc., qui m'a isolé un peu des autres, mais qui m'a entièrement pris en main et manipulé et amené là où je suis. Il n'y a que le travail. Mais le travail, pour nous, c'est les rencontres. Parce qu'un cinéaste qui n'aime pas quelqu'un devant sa caméra n'existe pas. Donc on ne peut pas dire que... Moi, je suis peut-être un cinéaste solitaire qui filme seul, mais je filme seul au contraire pour être... seul devant quelqu'un qui est seul, que je filme, pour être à égalité. Si j'arrive avec une équipe, etc., c'est foutu, le rapport est foutu.
Il est très peuplé, ce portrait de Léon, parce que, en effet, vous êtes seul, vous arrivez seul dans ce petit magasin. On pourrait considérer que Léon est seul, et en fait, vous êtes très animé par non seulement tous les gens que vous évoquez, dans votre voix, l'un et l'autre, et par toutes les personnes qui entrent et sortent de cette boutique. En fait, vous n'êtes pas beaucoup seul dans ce film, Alain Cavalier avec Léon.
Mais il y a toujours du monde. Il y a sa femme, il y a son fils, il y a son gendre. Et sa femme tient une place. Hein.
Rose.
Sérieuse, Rose.
Rosette.
Et puis, il y a tout le quartier qui il est aimé. Hein, c'est un endroit où les gens viennent se réchauffer, discuter, arranger leurs coups. Et puis, il y a une honnêteté dans son travail absolu. Et il aime réparer une belle paire de chaussures et en faire quelque chose de bien. Bah, écoutez, nous, on aime faire aussi. Nos films sont des paires de chaussures. Hein. Et Léon était avant, il était dans un atelier où il fabriquait les chaussures. Après, il s'est mis à son compte et il est devenu simplement réparateur de chaussures. Moi, je les fabrique, les chaussures.
Les chaussures films.
Hein, oui. J'espère que les gens, quand ils mettent les pieds dans mes films, hein, sont un peu à l'aise, quoi.
Deux grands éléments dans le geste. Il y a un élément, il y a une mine, il y a une veine exploitable. Il y a un gisement dans le geste qui va effectivement être exploité au sens le plus, j'allais presque dire, le plus managérial du terme. Et par ailleurs, il y a dans le geste des restes. Il y a un reste particulièrement fondamentale qui est la gratuité, qui est le paraître, qui est le fait de vivre simplement dans l'univers. Jeter des apparences vers on ne sait quel ciel au-dessus de nous, pas forcément des apparences adressées à qui que ce soit, mais simplement le fait pour un individu de s'auto-présenter.
Michel Guérin qui parle du geste, Alain Cavallier, en disant que c'est jeter des apparences vers quelque chose, peut-être le ciel ou vers quelqu'un, pour s'auto-présenter. Quand vous filmez Léon, Lévon, le cordonnier, ou quand vous filmez toutes ces femmes il y a plusieurs dizaines d'années, Alain Cavallier, vous filmez beaucoup leurs gestes, voire vous leur demandez de détailler leurs gestes au travail. Pourquoi est-ce que vous vous penchez sur ça ?
Je n'ai aucune théorie, c'est-à-dire que parce que ça me dans la vie ça m'intéresse. Donc je passe de mon œil de Pékin à mon œil de cinéaste sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je les vois puis tout d'un coup je suis attiré, voilà, hein. Et puis je le filme. C'est tout, c'est pas et en même temps mais c'est tout à fait accessoire. Je pense que je garde un petit témoignage de quelque chose qui m'a plu et que si je peux le transmettre à quelqu'un d'autre, à un spectateur, c'est pas mal non plus. Et puis ça me permet de gagner ma vie aussi.
Et vous transmettez l'émotion que vous avez eue à regarder ou alors, ou vous transmettez aussi un geste qui peut-être ne sera pas reproduit ou la singularité d'un geste.
Oui, parce que...
Ou plutôt un geste aussi...
Et un geste qui va me paraît assez fort, et mon obsession, elle est encore plus simple que tout ça, c'est de le cadrer correctement pour qu'il soit vu correctement par le spectateur. Parce que quand vous avez un geste, s'il est pris à gauche, il sera pas réussi, s'il est pris à droite, il le sera, et encore à quelle hauteur ? Alors, si vous avez un caméraman et puis un ingénieur du son qui, eux, décident de... ça ne va pas. Il faut que ce soit moi, le cinéaste entièrement, qui prenne en charge tout ça et qui le traduise, parce que c'est son émotion profonde. C'est sa sensation et son plaisir de vivre, son plaisir de voir ça. Ça, voilà.
Ça va très vite quand Léon ou quand d'autres personnes font leurs gestes. Alors ça veut dire que vous allez très vite dans la manière dont vous vous positionnez, ou alors vous les avez regardés un peu avant.
Donc je suis là, et dès que je sens qu'il y a quelque chose, un geste d'intéressant ou une petite histoire, parce qu'il y a toujours des micros, parce que moi j'ai été élevé quand même à la, les tragiques grecs et Georges Feydeau, je les ai étudiés au début de mon travail pour savoir ce que c'est qu'un suspense, une résolution, une exposition, etc. Donc j'ai gardé dans la recherche de la vie les histoires qui sont en route, les micro-stories là qui se baladent et que dès qu'il y en a une qui commence à enfler, je suis là.
Ça vous met en appétit.
Oui, et quand j'ai vu que Léon avait une petite pancarte en disant « Pour cause de retraite, je ferme dans 2 mois », je me suis dit « Voilà, il y a un récit en route, un homme qui a vécu 46 ans dans une boutique, qui s'en va, qu'est-ce qu'on peut raconter de mieux hein, qu'une vie à travers ça, en fait ?»
Il y a une autre histoire en route dans votre dialogue avec Léon, c'est ce deuxième prénom-là qui bourdonne en sous-couche, Lévon, et qui parfois surgit dans la mer de votre dialogue, à la faveur d'un échange avec un petit garçon, à la faveur d'une dédicace sur une pendule, et vous n'allez pas beaucoup plus loin que ça.
Non, j'ai... Quand je l'ai connu, il avait la radio. Il travaillait toujours à la radio. Alors moi, je ne peux pas demander aux gens de fermer leur radio pour les filmer. Et c'était entièrement de son pays, hein, la langue de son pays. Et je me disais que ça va être difficile pour moi. Puis quand je lui parlais, il parlait un français comme tous les immigrés qui veulent s'imposer un petit peu. Il a un français pratiquement parfait, quoi. Il parle aussi bien que ma mère, c'est-à-dire qu'un sujet, un verbe, un complément, pas d'adjectif qui dope un peu le récit, il est d'une simplicité, exactement comme les évangiles. Il parle, je ne pouvais pas, cette histoire de radio qui m'obsédait, comment est-ce que j'allais faire, en fait? Alors, petit à petit, j'ai appris qu'il y avait des parties de la journée où il ne la mettait pas. Alors, je commençais à filmer, et quelquefois, il me montrait quelque chose qui faisait d'intéressant pour lui, et que je pouvais filmer, et je lui disais, non, ça m'intéresse pas. Puis j'ai fini par lui dire, non, je ne peux pas à cause de... Mais au bout de, je ne sais pas, au bout d'un mois de... Et il a compris que ça me gênait. Et il l'a fermé. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu rentrer. Parce que j'avais le temps. Il habitait tout près de chez moi. Je venais. Quelquefois, je posais ma caméra, je lui parlais, je ne filmais pas. Et je rêve. Alors là, c'est un de mes vieux rêves que je ne verrai jamais ça à l'écran. C'est-à-dire un couple. Je rêve d'un couple qui a entre 25 et 30 ans, hein, qui sont tous les deux cinéastes, hein, et qui filment leur journée, un week-end par exemple, entier. C'est-à-dire ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, et le problème érotique, de leur vie érotique aussi, comment ils passent d'un repas, etc., à sans aucune... d'un naturel absolu et bien filmé. Il faudrait qu'ils soient pas mal de leur personne aussi, un peu quand même. Et je crois qu'on aurait pour une fois un film où on verrait les choses un peu mieux comme elles sont, hein, que comme on peut les montrer. Parce que si les cinéastes ne les montrent pas, d'abord c'est parce que il faut trouver les corps qui acceptent, hein. Et puis ensuite, eux-mêmes ont des réflexes de censure sur. Et puis il y a la censure du public qui n'accepte pas certaines choses.
Qu'est-ce qui vous paraîtrait intéressant, Alain Cavalier, de pouvoir filmer, mettons, deux jours de vie dans son temps, dans son intégralité, dans
non.
son...
Non, non, c'est-à-dire, il faudrait en faire un film. Le filmer et en faire un film. C'est-à-dire un film qui soit de 2h30 au maximum, c'est-à-dire...
Et pourquoi est-ce que vous dites que vous ne le verrez jamais à l'écran ?
Mais parce que ce couple n'est pas né encore. Ce couple n'est pas né parce que ça n'est pas dans l'air du temps encore, ça n'est pas faisable. Ça n'est pas faisable. Et je pense que nous, cinéastes, c'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup aux autres, quelquefois, ce qu'on aurait envie de filmer, quelquefois, la censure, jamais ça ne passerait. C'est-à-dire que je pense que...
J'arrive pas à comprendre.
L'esprit des cinéastes est un cimetière d'images interdites. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on voudrait filmer de sa propre vie, mais que, hélas, regardez votre journée, et que, combien de choses que vous avez faites dans votre journée, vous accepteriez de le montrer à des personnes, et de les filmer, et de bien les filmer.
Mais moi, c'est une question, mais combien de personnes passent leur vie à se filmer entièrement, tout le temps ?
Alors, plein ? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que maintenant... Avec les petits outils qui ont fait ma liberté, hein, les petites caméras, les caméras maniables qu'on a dans la main, tout le monde est cinéaste. Et je pense qu'un jour, ça sera ou des cinéastes professionnels ou simplement des amateurs ultra doués qui vont nous balancer à la gueule quelque chose d'absolument magnifique. Absolument magnifique. Je l'attends, hein. J'attends comme le Messie, mais comme il ne me reste pas tellement de temps quand même... Je suis un peu inquiet, hein. Mais je peux le rêver. Hein. J'ai rêvé tellement d'images
cher.
Que je n'ai pas faites, que voilà, c'est pas bien grave. Mais je dis ça depuis 40 ans, et c'est pas arrivé. Et moi j'ai filmé, moi, quand, avec mes acteurs, quand je faisais des... J'ai filmé des scènes un peu intimes, un peu... Mais quand j'y pense aujourd'hui, c'est... On est à la porte du temple, on est on en trouve la porte et puis on suggère symboliquement qu'il s'est passé des choses, etc., etc. Mais comment voulez-vous demander à un acteur et à une actrice de faire les choses complètement
vous voudriez filmer la sexualité, Alain Cavalier.
Mais j'aurais aimé la filmer comme le reste. Vous voyez, pas la filmer pour la mettre en... La filmer exactement avec la même fluidité, le même... Que notre conversation.
Et vous pensez que ça n'est pas possible ? Vous attendez les personnes qui vont
le faire. Aujourd'hui, la société est construite de telle façon, et les individus, qu'ils soient cinéastes ou pas, ce n'est pas encore là, le moment.
Alors ça veut dire que tous ensemble, la société, comme vous dites, on n'est pas apte à regarder la sexualité comme ce qu'on peut regarder.
Oui, et je signe avec la sexualité. La vie des entreprises, si elle était filmée vraiment par les gens qui la vivent, la vie des soldats, etc., tout est camouflé. Où tout devient 3 minutes du journal télévisé, et puis hop, on boucle le truc, et puis on garde vaguement le souvenir que c'est les handicapés ont des problèmes, etc. Non.
En fait, on ne se donne pas le temps de regarder.
Ben, on n'a pas le temps. Moi, j'ai le temps. Moi. Ben, j'ai le temps parce que je ne fais que ça, que c'est mon travail, que c'est ma passion. C'est ma passion. Mais quand vous avez... Moi, j'adore regarder dans le métro, les gens. Mais le métro est un endroit interdit pour moi. Quand je monte dans le métro, je vois toujours 3 ou 4 visages, surtout maintenant avec les serpents, les métros serpents, là où on voit 3 ou 4 visages que je trouve beaucoup plus sublimes et intéressants et magnifiques que même les acteurs ou les actrices que j'ai filmés. Mais je ne peux pas prendre ma caméra et puis tranquillement garder une trace de ce trésor humain qu'on m'offre dans un lieu public. Je ne peux pas, c'est interdit. La personne viendrait me voir, ou les gens autour, et pourquoi ils me diraient oui aussi, hein, ils n'ont pas tort. Mais je suis privé, vous voyez, je suis privé.
Des visages.
De certains visages dont je voudrais garder la trace, même les suivre.
Je ne sais pas si on peut parler de phénoménologie du visage, parce que la phénoménologie décrit ce qui apparaît. De même que je me demande si on peut parler du regard tourné vers le visage. Le regard est toujours une connaissance, une perception. Et je pense que l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est quand vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de regarder autrui, c'est de ne pas connaître même la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur de ses yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. Par conséquent, la relation avec le visage peut être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne se réduit pas. Or, il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, son exposition sans défense. C'est la peau la plus nue qui reste la plus nue et la plus dénuée. C'est une nudité décente, mais la plus nue, dans un certain sens, la plus dénuée aussi. Il y a, dans le regard du visage, il y a une pauvreté qu'on essaie de cacher d'ailleurs en se donnant une contenance ou en prenant des poses, en se masquant. Il y a donc cela, et en tout cas c'est cela qui apparaît à celui qui aborde autrui. Et par conséquent, il y a dans le visage absolument exposé, comme menacé, comme nous invitant à un acte de violence. Et en même temps, le visage, c'est ce qui vous interdit de tuer.
Vous prêtez l'oreille, Alain Cavalier, à la voix d'Emmanuel Lévinas, à cette archive qui parle du visage. Et pendant que vous l'écoutiez, vous disiez « Ah, c'est fou, je l'écoute, mais je ne pose pas du tout les questions de cette manière-là. Je l'écoute et je traduis directement en préoccupation pratique. »
Oui, là, je parlais du métro, et lui parle des visages du métro. Et tout d'un coup, je suis dans le métro, moi. Et j'essaie d'adapter son discours très subtil et très sur les visages. Et moi, je suis dans le métro à regarder les visages. Mais c'est la même chose. Sauf qu'on a un outil très différent. Moi, j'ai une caméra et lui, il a des mots et une écriture. Et moi, j'ai été élevé dans l'écriture. Et oui, parce que j'ai vu mon premier film à 7 ans quand même. Il n'y avait pas de télévision. Je regrette d'avoir été formé par...
Les livres ?
Par Flaubert, hein, et par Debussy. J'aurais préféré être formé par Jean Renoir, cinéaste.
Vous dites ça dans l'un des portraits il y a 30 ans. J'ai la nostalgie d'être quelqu'un qui n'a pas lu de livre. J'aurais tellement aimé pouvoir faire du cinéma sans avoir lu. Et là, vous me redites, Alain Cavalli.
Oui, parce que c'est l'évidence qui m'y fait penser. Il y a le discours d'abord, et puis ensuite, il y a l'action cinématographique. Et moi, j'ai commencé par le discours sur les images, sur les sons, sur et par l'outil étant les mots pour s'exprimer, pour dire ce qu'on ressent, comment on est content ou pas content. Et moi, je me suis trouvé tout d'un coup avec un outil tardivement. Il fallait que je fasse la même chose, c'est-à-dire que je m'exprime, mais j'avais pas été formé par l'outil. Mon outil, ça avait été les mots et les notes des musiques.
Et ils vous ont empêché ?
Ben, c'est-à-dire que je suis un tardif. Je suis venu tardivement à la pratique de la caméra. Je suis devenu un instrumentiste, mais je suis devenu un instrumentiste. Ah, j'avais près de 60 ans. Alors que mon rêve aurait été de devenir un instrumentiste à partir de l'âge de 12 ans.
Qu'est-ce que
d'avoir
vous
une caméra à 12 ans.
Est-ce que vous racontez pas quelque
chose ? Mozart, il jouait du piano à 12 ans. Hein ? Moi, j'ai attendu 60 ans avant de jouer du piano. C'est parce que l'outil était tellement gros qu'il fallait deux machinistes pour le mettre sur un pied, il fallait un type qui fasse le point, un autre qui cadre, un autre qui fasse la lumière. On était des ouvriers, moi j'étais un chef de chantier. Ça m'emmerdait. Je suis arrivé à un mauvais moment.
Ou pas. Parce que arriver avec 60 ans de vie devant un outil, c'est aussi arriver avec un bagage intéressant.
Oui, je peux retourner ça dans le bon sens.
Pourquoi pas. Hein,
et dire que c'est une chance, effectivement, ça a été la chance de mon âge avancé, c'est d'avoir, de me servir de mon outil naturellement. Voilà. J'étais très content et ça m'a sauvé la vie un peu. Ça m'a un peu sauvé la vie. Les ingénieurs japonais ont sauvé ma vie. Hein, c'est pas mal, ça.
Qu'est-ce que vous dites quand vous dites que ça vous a sauvé la vie, Alain Cavalier ?
C'est-à-dire que si je continuais à faire des films chers, pour faire des films chers, enfin chers, qui coûtent un peu d'argent, il faut des comédiens connus, il faut aller leur téléphoner, leur faire la cour, et puis ensuite, quand ils ont donné l'accord, il faut aller voir des producteurs, et puis ils réclament un scénario, il faut écrire ce scénario, il faut aller discuter avec eux de la fin qu'ils trouvent un petit peu triste ou un petit peu faible, etc., etc. Il faut aller voir les gens de télévision pour qu'ils passent les films après qu'ils soient passés dans les salles, etc. Ça prend des semaines, et vous attendez que, etc., etc. Comment voulez-vous que je fasse ça à la fin de ma vie? C'est impossible. D'abord parce que je trouve ça extrêmement humiliant, hein. Et qu'en plus de ça, ça fait des produits complètement... Et puis les gens, arrivés à l'âge où j'ai, ne viendraient même pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Vous vous rendez compte, moi, dire à une jeune fille dans un scénario, parce qu'il fait d'embrasser un jeune homme, je veux dire, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas.
Je ne veux pas vous croire.
Non, mais je ne le ferai pas. Je ne le fais pas. Il y a 30 ans que je n'ai pas demandé à un acteur de faire quelque chose. D'ouvrir une porte et de rentrer en prenant un air joyeux et communicatif.
Même avec Pater.
Ah ben ça, Pater, c'est justement exactement le contraire. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec un comédien que dans la vie, on s'entendait très bien dans la vie. On a décidé de faire un film où on rencontrait comment on s'entend dans la vie, puis de temps en temps, on irait musarder dans des situations un petit peu invraisemblables qui nous amuseraient comme ça de faire tous les deux sans texte, sans rien. Alors c'est un petit exercice de distraction, hein. C'est un divertissement, voilà. Sur des choses de temps en temps un peu sérieuses, qu'on glisse, mais c'est un divertissement, ça n'a rien à voir avec... Au contraire, c'était une façon de presque de montrer au public ce que c'était que le travail d'un comédien. Comment tout d'un coup, fuit, il passait du réel comme ça fuit, et puis passait de Vincent Lindon à Premier ministre à vue comme ça, à vue.
Vous savez, je suis pas un être intelligent, alors au moins cette chose importante, c'est que je travaille beaucoup plus d'une manière intuitive. C'est-à-dire que tout peut être déclenché, soit par une image surtout, parce que la visualisation m'intéresse énormément du monde. Donc, si vous voulez, un regard de quelqu'un que je rencontre dans la rue, soit dans un restaurant, un sourire, un mot, par exemple, entendu, peut déclencher chez moi automatiquement et en même temps, sans que je sache tellement, un début, si vous voulez, d'une histoire. Pour moi, enfin, tout peut devenir une histoire. Il suffit d'un rien pour que brusquement se déclenche un espèce de déclic à l'intérieur de cette interview que nous faisons et que arrive justement quelque chose d'autre. La porte s'ouvre, quelqu'un entre, c'est un personnage. Vous voyez donc combien tout est mélangé, si vous voulez, le fictif et le réel. Pour moi, il n'y a pas de choses fictives. Enfin, le monde, pour moi, est réel, même dans son irréalité. Parce que si vous lisez les journaux, si vous lisez n'importe quel hebdomadaire, vous êtes dans l'irréalité du monde. Enfin, c'est fantastique ce qu'on vit, soit dans la cruauté, soit dans la violence, soit dans des choses saugrenues ou absurdes. Mais il faut aller au-delà de tout ça. Et surtout, ne pas se prendre au sérieux.
Vous dites, en écoutant Jean Cayrol dans le studio Alain Cavalier, alors je ne suis pas le seul, on est vraiment une famille.
Oui, une vraie famille.
Jean Cayrol qui dit, la porte s'ouvre, quelqu'un entre dans la vie qu'on dit réelle, et voilà, c'est un personnage. Ouais. C'est vraiment cette porosité entre les petites histoires, les histoires, la fiction, et ce qu'on dit habituellement être le réel.
Sauf que lui, il peut, tout ce qu'il voit, il peut l'écrire en rentrant chez lui et dire... Moi, tout ce que je vois, c'est, il faut que je le fasse avec les personnes que j'ai vues. J'ai pas d'autre solution, hein, que d'aller vers les personnes qui font. Tandis que, moi, je peux avoir une histoire torride avec une femme, hein, et puis, on se sépare, et je passe 6 ans de ma vie à l'écrire dans un livre où je raconte tout, avec un style flamboyant, évidemment, magnifique. Et ça fait un livre, et personne viendra me... Tandis que si je veux faire la même chose avec cette femme qui est partie, je ne peux pas le faire.
Parce qu'elle est partie ?
Mais parce que je n'ai plus son corps, je n'ai plus elle. Je ne peux travailler que sur le vif. Je ne peux pas travailler sur la moindre reconstitution. C'est pas possible. Sur le moment, sur l'instant, sur le présent. Vous voyez la différence ? Alors, il dit la même chose que moi, mais pour lui, le boulot est 100 000 fois plus facile. Et c'est normal, puisque... L'écriture existe depuis des millénaires et que nous, nous n'existons que depuis 120 ans, je crois. Hein. Mon grand-père est né la même année que les frères Lumière. Je touche l'invention du travail que je fais. Je suis proche. Je suis encore un enfant de Lumière. Alors, mes moyens sont par rapport à... par rapport à la recherche du temps perdu, ils sont très... Il faut être plein d'humilité, hein, plein d'humilité.
Parfois, vous êtes comme un enfant devant des personnes que vous voudriez filmer. Je veux dire, vous pouvez avoir à la fois l'audace de l'enfant ou sa grande timidité.
Oui, mais on est... C'est-à-dire qu'on est très travaillé dans le sens qu'on est à la fois... très ouvert, très... On regarde, oui, comme d'une façon un peu enfantine. On découvre la vie tous les jours. Et puis, en même temps, on a toujours derrière, dans le fond de notre cerveau, des tas de projets, de comment est-ce que je vais pouvoir la voir, qu'est-ce que je vais lui dire, comment ça... pour qu'il soit au mieux de lui-même. On reste un peu des directeurs d'acteurs, vous voyez. On a tout un monde qui grouille de petit problème à résoudre vis-à-vis de la personne qui est devant vous.
Par exemple, pour Léon Le Cordonnier, c'était quoi les problèmes que vous deviez
résoudre ? Eh bien, j'avais un problème avec Léon, c'est que il se demandait pourquoi je filmais. Et comme lui, il a un travail, et quel était mon travail ? Qu'est-ce que j'allais faire de ça ? Où j'allais montrer ça ? Alors je lui disais, je ne savais pas. Je ne disais pas du tout que ça serait vu à la télévision et au cinéma. Je lui disais, je ne sais pas, je filme ça parce que Léon... J'aime bien venir chez vous, j'aime bien venir chez toi et garder une trace de tout ce que tu fais. C'est ça qui m'intéresse. Mais ça ne lui suffisait pas. Et comme sa femme était plus pratique que lui, qui est un petit peu plus pratique, quelquefois je sentais que... Et je l'ai tourné, vous savez quand je l'ai tourné ? 2005. Et je le sors en 2017. C'est-à-dire 12 ans après, c'est-à-dire que... Et je continue à le voir, il revient dans le quartier, on va déjeuner ensemble, etc. Il y a des années qu'on ne parle même plus du film, parce que c'était devenu une sorte de... Et puis, là, je vous ai raconté pourquoi je voulais reprendre tout ça, mais j'aurais pu très bien mourir sans que... Et lui, avoir été filmé. Là, c'est délicat à gérer, à faire comprendre aux gens que ça ne deviendra pas automatiquement un objet fini et comestible. Un film que les gens verront.
Alors ça passe par quoi de réussir à leur transmettre justement cette délicatesse-là? C'est-à-dire, dans un premier temps, je suis là parce que je suis là, Léon.
Oui, c'est tout. Ben oui. C'est sur la répétition. C'est tout d'un coup, il se sent regardé, il sent que ce qu'il fait intéresse. Que, voilà, on ne regarde pas seulement les chaussures qu'on apporte, hein, et le prix que ça coûte. Il y a, tout d'un coup, il y a une sorte de lien qui se crée entre lui et moi. Il me pose des questions sur ma vie aussi, et on construit une sorte d'amitié dont on a petit à petit besoin. Moi, j'avais besoin d'aller le filmer, et je suis sûr qu'à certains moments, il avait besoin que je vienne le filmer.
Mais ça, ce n'est jamais dit.
Si vous m'avez posé la question, c'est que ça rampe un peu quand même. Ce qu'il y a de bien dans ces films-là, c'est que on ne dit pas il est jaloux. On attend la preuve de la jalousie. Hein. S'il n'y a pas de preuve de jalousie, on ne parle pas de la jalousie. On ne dit pas il est jaloux et la preuve. Hein. Nous, c'est la preuve. Il faut donner la preuve cinématographique que.
Quand vous dites nous, c'est qui? Nous, les cinéastes?
Oui. C'est quand on filme, par exemple, deux personnes s'aiment à l'écran, il faut qu'ils donnent la preuve. Une preuve visuelle et sonore que... Et alors, en général, ils vous donnent une preuve d'une banalité extraordinaire, c'est-à-dire un cliché, ils s'embrassent, ils se serrent la main pour faire comprendre au public qu'ils s'aiment. Mais nous, ce qu'on leur demande, c'est pas ça du tout. Quelle est la particularité du geste que l'un a fait qui a rendu l'autre encore un peu plus amoureux? Comment ils ont décidé d'aller dans tel restaurant, puis ensuite... Le détail. Et quand on filme des gens qui vivent, qui travaillent, etc., on est surpris par la qualité du détail qu'on ne trouve pas dans les films de fiction. Jamais. Alors je ne vous parle pas des films de fiction où on voit un cordonnier qui fait semblant de réparer des godasses. Ou même, à l'extrême limite, une personne qui joue le trio de Ravel au violon, comme ça, et qui l'a appris... Alors s'il y a effectivement un violiste dans la salle, je pense qu'il devrait se lever, se tourner vers les publics et leur dire « on se fout de votre gueule hein ». Moi c'est ça dont j'ai peur, moi. C'est d'être pris la main dans le sac, à mentir. La hantise du mensonge. Alors on me dit mais le spectacle c'est un mensonge. C'est un... Non. C'est un mensonge à partir du moment où vous résumez la vie de Léon en 50 minutes, ça c'est un gros mensonge. Hein. Mais si chaque partie est un peu juste, un peu véritable, un peu véridique, la vérité sera au moins un tout petit peu respectée. Un tout petit peu respectée.
Qu'est-ce qui vous fait peur dans le mensonge? Qu'est-ce qui est dangereux?
C'est mon éducation religieuse, j'ai été élevé dans le... C'est que j'ai peur d'être pris la main dans le sac. J'ai pas peur de mentir. J'ai peur que le spectateur me dise, je parle du spectateur, mais que je rencontre, que je peux rencontrer après la présentation de mes films. Tu viens voir un peu, là. Et je ne supporterai pas. Je ne supporterai pas. Alors donc, j'ai trouvé cette grille qui est de considérer que si c'est... C'est mon avis, hein. Je dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, je constate bien, je vois bien, je suis un bon angle, ça me paraît juste, là je peux y aller. Mais la vie, vous n'avez pas besoin de la, hein, vous n'avez pas besoin de la booster, la vie. Elle a de telles choses magnifiques à montrer que. Même les actrices qui se font refaire le visage, c'est passionnant parce que elle joue le rôle d'une ouvrière et tout d'un coup elle est ultra liftée et on se dit oh son lifting est drôlement bien fait, donc c'est un chirurgien qui paye ça très cher, et donc comment elle peut le faire alors qu'elle elle est manutentionnaire dans une usine.
Vous voulez faire un cinéma qui mente pas, Alain Cavalier?
Mais quand je faisais des films aussi avec des comédiens, j'essayais de... Il faut pas réduire ça. Ça fait... C'est une question morale. Pour moi, c'est pas moral. C'est que je peux pas faire autrement. et que c'est pas ça qui est le la composition ne m'attire pas, hein. Ça ne m'attire pas. Ce qui m'attire, c'est d'être justement là, au moment où la vie est formidable, et d'appuyer sur le bouton, et d'être bien placé. Voilà, je résume ma moralité. Ça ne va pas très loin, mais pour se trouver dans ces conditions-là, il faut vraiment... il faut vraiment les chercher. Il faut les chercher. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer des personnes qui vous conviennent, Léon, qui vous acceptent, et que vous pouvez regarder pendant des heures, et sans qu'ils vous disent, mais va-t'en. Non, je ne peux pas dire que je sois un apôtre de la vérité.
Je ne suis pas sûr que je vous croirais.
Hein? Non. Mentir, je suis incapable de mentir. Je suis très mauvais. Non, c'est parce que j'ai des... les cinéastes sont toujours des acteurs rentrés. Hein? Ils n'ont pas pu se présenter devant la caméra, donc ils vont derrière. Hein? Bon, ça c'est une... Mais... il faut, être un bon menteur, un très bon menteur. Alors à ce moment-là, c'est un sport, c'est un... c'est comme filmer à ce moment-là. C'est sans fin. Quoi.
Merci beaucoup, Alain Cavalier.
La 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 la. Nous avons tant parlé, toi avec moi, comment se rappeler, qui a dit quoi? Nous en avons tant fait, tu m'as volé, je ne sais ce que c'est, je t'ai pillé. La 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 la.
Par les temps qui courent, où s'installer confortablement pour faire la meilleure des siestes?
À Vendôme, ma ville natale, sur un banc au soleil d'automne.
Par les temps qui courent, quel livre ne jamais refermer?
Les évangiles, évidemment.
Je le retrouverai.
Et par les temps qui courent, qu'est-ce qui continue de vous faire rire?
Moi-même.
La 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 la. Flammes sont mêlées dans un bruit tendre, et de l'autre côté, ce sont nos cendres. Mais pourquoi séparer ceci de ça? Pourquoi vouloir gagner? Il ne faut pas. La 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 la